qu'on produit. Pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes toujours aujourd'hui en compagnie de Alessandro Pignocchi, auteur et chercheur, pour parler entre autres d'attachement au milieu de vie, de liens d'affect entre vivants et non-vivants, de territorialisation des luttes. Vous écoutez donc la deuxième partie de cet entretien, puisque pour mémoire, la première partie a été diffusée le mois dernier et est actuellement réécoutable en replay sur le site de Fréquence 7, fréquence7.fr. Donc Alessandro Pignocchi, tu nous parlais précédemment du choc qu'avait été pour toi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en termes d'organisation collective, d'attachement physique à un territoire, et donc aussi à ce que cet attachement implique de liens d'affect entre vivants humains, mais aussi vivants non humains. Et tu disais aussi qu'heureusement, il n'y a pas que là-bas que ça a pu exister. On peut bien sûr imaginer les autres ZAD, d'autres endroits équivalents, où ce genre de choses naît sans doute assez naturellement. Mais est-ce qu'il y a eu des endroits dans le monde, dans l'histoire, où ça a pu marcher, où ça a pu fonctionner sur le long terme, avant peut-être d'être réprimé? Ou des endroits où ça existe peut-être encore aujourd'hui?
Mais ça existe encore, évidemment, mais encore une fois, des décisions politiques prises de façon relativement égalitaire, ça a quand même existé. Alors avec très souvent des groupes qui étaient exclus de la décision politique, mais néanmoins, ça a quand même été plutôt la règle dans l'histoire de l'humanité, même si quand on retrace l'histoire des derniers millénaires, on se focalise souvent sur les États à tendance autoritaire, parce que c'est ce que connaissent les chercheurs, et ensuite ces États qui ont souvent laissé le plus de traces, notamment écrites, donc on a tendance à se focaliser là-dessus. Mais en termes d'extension territoriale ou de population qui y habitait, c'est resté jusqu'à une période récente minoritaire par rapport à des formes d'organisation humaine complètement distinctes et qui, pour le coup, se mêlaient à, enfin, en tout cas, considéraient les habitants non humains du territoire comme des êtres politiques avec des intérêts qui leur étaient propres. Sur la question de la diversité des formes politiques, je renvoie par exemple au livre de David Graeber et David Wengro, Au commencement était, qui est quand même assez rafraîchissant, et sur l'importance dans l'histoire de l'humanité des attachements au-delà de l'humain, le livre qui s'appelle précisément Attachement de Charles Stepanov.
D'accord.
Donc, voilà mes conseils lecture. Il y en a beaucoup d'autres.
Parmi d'autres. Donc, moi, je pensais par exemple à des endroits comme au Chiapas ou des fois ensuite le Kurdistan, le Rojava.
Les deux exemples auxquels on s'accroche, même qu'en France, on s'accroche à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de façon internationale, on s'accroche au Chiapas et au Rojava, bien sûr. Ouais.
Et t'as de l'espoir pour la suite, en France, en Europe, en Occident? Est-ce que...
Pas tant, mais en même temps...
On n'a pas le choix.
De toute façon, on peut être surpris par l'histoire, c'est ce que disent mes maisons. Enfin, évidemment, si on se base l'actualité, on a vraiment le sentiment que, et c'est sans doute le cas malheureusement, que l'engrenage pulsionnel fasciste est beaucoup trop lancé pour être arrêtable, sans une crise majeure type Seconde Guerre mondiale. Et c'est sans doute qui nous attend. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, vu qu'il y a quand même certaines des différences par rapport aux années 30, notamment technologiques. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais en tout cas ça semble difficile d'inverser la tendance quand la mécanique fasciste est si bien lancée. Mais la perspective politique de construire des formes de solidarité territorialisée, d'étendre les réseaux de solidarité territoriale entre le monde associatif, les luttes paysannes, l'ensemble des personnes et des structures qui essayent de retrouver un peu de marge de manœuvre, tant politique que matérielle, les initiatives type sécurité sociale de l'alimentation, ou c'est les équivalents non institutionalisés, institutions dominantes type grenier de ravitaillement des luttes, comme les soulèvements de la terre essayent de le faire. Ça, quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être une mauvaise idée, quoi. Soit c'est l'anéantissement nucléaire total, et bon, dans ce cas-là, ça aura servi à rien. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit des zones de résistance, des zones qui permettent de faire le dos rond pendant une période fasciste dure et de préparer la suite, dans tous les cas, c'est pas une mauvaise idée d'essayer de reprendre un peu prise sur les territoires d'une façon qui est antagoniste avec les attachements au territoire que propose le fascisme, vu que les projets réactionnaires Le territoire réactionnaire, c'est des liens au territoire dont tu hérites par le sang, par la famille, par les ancêtres. Et donc, c'est des liens qui visent à exclure. C'est ces liens-là qui font que dans beaucoup de villages français, tu continues à appeler l'étranger, celui qui vient d'ailleurs, même si c'est peut-être le plus actif sur la revivification du territoire, ça reste le Parisien ou l'étranger. Et à l'inverse, les liens dont on pense, dont on est un certain nombre à penser, à espérer, qui recèlent une puissance politique particulière, c'est des liens que tu construis par la participation à l'autonomie. Et donc, c'est des liens qui visent à inclure et que, de fait, tu ressens sur les ZAD, ou si tu, après une demi-journée à participer à un potager collectif, tu te sens chez toi, tu fais le territoire tien par le tissage actif de liens affectifs via la contribution à l'autonomie matérielle et politique du lieu, quoi.
Par l'action, finalement, plus que par les
par la contribution. Ah oui, en tout cas, c'est pas des liens hérités, c'est pas des liens qui excluent, parce que c'est des liens que n'importe qui peut s'approprier à partir du moment où tu contribues à la vie politique et matérielle du territoire.
C'est la différence que tu mettais aussi tout à l'heure en début d'interview entre les idées et les initiatives politiques. Est-ce que on pourrait placer le fait le territoire duquel on hérite, auquel on est attaché à cause d'un idéal, et celui dans lequel on va vraiment s'impliquer personnellement, physiquement, du coup les deux.
Je sais pas, ouais, bonne question. Ça recoupe pas tout à fait la distinction entre idéalisme et matérialisme, mais en tout cas là encore, c'est vrai que c'est les liens hérités. C'est vrai que c'est une idée puissante et que le projet fasciste, encore une fois, capte si facilement les subjectivités sur cette base-là, en disant bon, la modernité ou l'axe de valeur économique l'emportait sur tous les autres, a fait de vous des perdants. Qui, aux yeux d'un monde en économie, mis en économie, fait de vous des êtres sans valeur. Nous, on va vous redonner une valeur parce que vous êtes nés là, parce que vous êtes des mecs, parce que vous êtes blancs. Donc des processus de validation de l'individu, des processus identificatoires qui à la fois échappent à la valeur économique et ont cette espèce d'une forme de stabilité rassurante. Et donc l'objectif des mouvements de la gauche d'émancipation aujourd'hui, selon nous, c'est de proposer d'autres axes de validation qui à la fois sont indépendants de la valeur économique mais qui sont aussi antagonistes aux formes de validation que proposent les projets réactionnaires. Donc en valorisant les capacités à l'autonomie, les capacités à se lier, pourquoi pas les savoirs naturalistes, et qui, soit dit en passant, sont un certain nombre de valeurs qui travaillent encore certaines strates des classes populaires, plus sans doute que la bourgeoisie culturelle urbaine, enfin, la valorisation de tous les savoir-faire manuels, de la capacité à l'autosubsistance alimentaire, la valorisation de formes de solidarité territorialisée, et qui sont donc des axes de validation, disons, qui permettent peut-être de fluidifier les liens et les alliances entre, pour parler vite, la petite bourgeoisie culturelle urbaine et des franges des classes populaires où ces valeurs sont encore relativement vives, vivaces. Et cette alliance entre bourgeoisie culturelle urbaine et classe populaire rurale, ça semble quand même être un ingrédient intéressant pour un mouvement révolutionnaire impactant. Et puisque tu cites El Chiapas, de fait, c'est le cas au Chiapas. C'est quand même la rencontre entre des militants urbain et une population indigène paysanne qui disposait encore de savoir-faire et de capacités en termes d'organisation notamment, et évidemment d'autonomie matérielle beaucoup plus vive et solide que les urbains, quoi.
Ouais, et de fait, il me semble, c'est souvent ce qui est pas réussi en fait dans bien des révolutions, c'est y a toujours un échec à unir autour d'une vision commune. Sur le long terme, en tout cas, petite bourgeoisie éduquée, urbaine et paysannerie rurale. Bon, je pense notamment à la Révolution mexicaine au début du XXe siècle, mais justement, ça avait une des causes des échecs de la Révolution, ça avait été de ne pas réussir à faire cette liaison. Mais il y a sans doute plein d'autres exemples. Et là, au moins, au Chiapas, donc, ça a été réussi, cette liaison, ça a marché.
Ouais, complètement. Et du coup, là, vu le contexte, on se sent presque ridicule à dire des choses pareilles, mais en tout cas, l'espoir, c'est que se focaliser sur les liens d'attachement au milieu nourricier, au milieu de vie et à l'ensemble de ses habitants non humains, sachant qu'évidemment, ces liens-là enrichissent aussi les liens entre humains qui habitent le territoire, qu'en se focalisant là-dessus, on va réussir cette liaison-là, quoi.
Bah, c'est un peu déjà ce qu'on, quand on parle de convergence des luttes, déjà il y a quelque chose d'intéressant que j'ai l'impression que c'est assez nouveau, ça, quand même, cette volonté de vouloir lier féminisme, écologisme, antiracisme, toutes les questions queer, anti-validistes, justement, ça donne de l'espoir aussi, non ?
Ben, ça fait un moment que c'est que les déliaisons, mais oui, c'est sûr que tous les après c'est oui, comme tu le sais, c'est pas complètement évident, et ce n'est pas et notamment le comment tu fais le lien entre avec des franges des classes populaires, notamment rurales, notamment le monde paysan, sans lesquelles évidemment on n'a pas la moindre chance de réussir une reterritorialisation des luttes, vu l'aisance, la facilité avec laquelle des initiatives, même pleines de bonnes intentions, sont reçues comme du mépris de classe. Ces connexions-là sont extrêmement délicates à faire. Il faut vraiment être de très fins anthropologues symétrisants pour réussir à proposer des projets qui ne soient pas perçus comme une violence de classe, quoi.
Et sans forcément rentrer dans le partisanisme, tu penses qu'il y a des gens dans le monde politique actuel qui sont à la hauteur de cette question ?
Ça, c'est sûr que non, mais par contre, la nouvelle perspective, c'est de construire des formes d'autonomie territoriale qui cohabitent avec les États. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est ça l'hypothèse que je défends dans mon dernier livre, de dire que des formes d'autonomie territoriale, même relativement modestes en termes de puissance politique et matérielle, suffiraient à enclencher une sorte de cercle vertueux et à construire un contre-pouvoir qui nous permettrait de remettre progressivement la main sur certaines institutions d'État, notamment la Sécu, et éventuellement instituer une sécurité sociale de l'alimentation. En tout cas, que des territoires autonomes sont une des armes pour renouveler, redonner un peu de souffle aux mouvements sociaux qui, dans leur forme ancienne, là, sont en train de s'éteindre, en tout cas, qui ont besoin d'un nouveau souffle. Et l'idée, c'est que c'est en se saisissant de la question écologique par la voie des attachements, des affects, et qu'on peut apporter un ingrédient nouveau qui aura, on l'espère, la force de revivifier un certain nombre de mouvements sociaux qui et dans cette perspective là on n'attend pas grand chose des partis politiques institués, mais on en attend quand même quelque chose de fondamental, c'est qu'ils nous répriment pas trop, quoi. c'est qu'ils nous laissent un peu faire. On n'attend pas à ce que eux-mêmes se lancent tout seuls à toute vapeur contre les forces du grand capital, mais qui desserrent un peu les taux répressifs et qui tolèrent des initiatives territorialisées de reconstruction de formes politiques, d'organisation à un peu grande échelle. Et donc, évidemment que cette perspective-là dépend très directement du niveau d'hostilité de l'État, quoi. Et donc, ça c'est absolument pas une perspective politique qui incite à se désintéresser du jeu électoral, bien au contraire. C'est simplement, on en attend beaucoup moins, mais par contre, c'est évident que chaque degré d'hostilité en moins dans le ministère de l'Intérieur vis-à-vis des initiatives territorialisées de ce type-là, c'est des marges de manœuvre gigantesques en plus pour nous, quoi.
Donc en gros, ce que tu dis, c'est allez voter, mais ne faites pas que ça.
Bah oui, c'est ça, c'est très banal. On va finir là-dessus, mais c'est d'une banalité
c'est
consternante. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'hypothèse territoriale permet de faire un peu de relire les deux hypothèses politiques majeures qu'on a à disposition quand on fait le constat de la fin de la social-démocratie, qui sont le renversement révolutionnaire et la prise de pouvoir par les urnes. C'est que l'hypothèse territoriale se nourrit de ces deux hypothèses-là, mais on attend moins. C'est-à-dire que d'une puissance révolutionnaire insurrectionnelle, on n'attend pas un renversement global des institutions, mais juste la capacité à faire suffisamment peur pour les États soient contraints de desserrer qu'à certains endroits les mailles sur le territoire et de nous laisser un peu faire, et de la prise de pouvoir par les urnes. On n'attend pas une action politique décisive, même si, bon, si elle se produit, elle est la bienvenue. Mais en tout cas, on attend principalement qu'il ne nous réprime pas avec une passion trop débordante, quoi.
Merci beaucoup, Alessandro.
Merci
Pinetti
à toi
pour nous avoir accordé cet entretien passionnant. Merci aussi, bien sûr, à celles et ceux qui nous écoutent, et à qui je dis, comme d'habitude, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique du Hérisson.